おかしいおかしい
在六个人之中，我今天告诉五个人，阿贝现在正在做事。
Merci Tinasalama, bonsoir, province de l'Équateur, reprise hier mardi de la localité de Matanza par les FARDC des mains des insurgés ailés. Quelle est à ce jour la situation sécuritaire et humanitaire dans la localité de Matanza et les territoires environnants? Nos invités dans cette émission sont Rebecca Ebalenguma, ministre provinciale chargée de la communication et porte-parole du gouvernement provincial de l'Équateur, José Engwanda, député national de l'opposition et président du regroupement des parlementaires de l'Équateur, Clovis Kada, membre de la société civile et coordonnateur principal du groupe d'action pour la démobilisation et la réinsertion des enfants soldats. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Les FARDC ont repris Matanza hier mardi après 3 jours d'occupation de cette localité située à 200 km en amont de Mbandaka sur le fleuve Congo par des insurgés ignélés. Pour en savoir plus, nous avons en ligne de Mbandaka Dominique Wolombi-Mongapangé, un de nos correspondants dans cette ville. Bonsoir Dominique.
Bonsoir Alain.
Alors dites-nous Dominique, comment cette localité est tombée samedi dernier entre les mains des ignélés?
Selon un habitant de Matanza arrivé à Mbandaka, Matanza est tombé entre les mains des insurgés ignélés sans combat. Ils sont entrés dans cette localité par derrière en venant de la forêt. Ils ont tiré des rafales, des coups de feu qui ont semé la panique parmi la population qui a fui. Mais quelques policiers et éléments de la force navale basée à Matanza n'ont pu faire face à l'attaque. Ils ont battu en retraite. Selon le général Michel Ekoutsou, commandant de la 3e région militaire et commandant des opérations à l'Équateur, ces ignélés sont ceux qui ont été mis en des routes au territoire voisin des Bomongo.
Quel est le bilan de ces affrontements entre les ignélés et les FARDC à Matanza?
Selon Mme Rebecca Ebalé, ministre provinciale des communications et porte-parole du gouvernement provincial, qui cite des sources militaires, le bilan de ces affrontements fait état des 24 insurgés ignélés tués, un soldat FARDC, 3 policiers et 1 civil, personnel militaire féminin des forces gouvernementales. Les FARDC ont récupéré à cette occasion des moteurs hors bord, un appareil fourni et quelques armes de guerre.
Actuellement, comment se présente la situation sécuritaire à Matanza et dans les localités voisines?
Un jour après la reprise de Matanza par les FARDC, la situation sécuritaire reste encore précaire. Mais la population qui avait fui commence à rentrer. Si je peux emprunter l'expression du général Michel Ekoutsou, les ignélés n'ont pas de base précise. Ils mènent la guérilla et non une guerre conventionnelle. Ils se déplacent à travers la forêt et apparaissent là où l'on ne les attend pas. La forêt dans laquelle ils évoluent couvre les territoires des Libengue, Bomongo, Kungu, Matanza, Boudala et même Lissala. S'ils parvenaient à traverser le fleuve Congo, c'est au territoire de Bongandanga où ils pourraient apparaître.
Pour terminer, Dominique, quelle est la situation humanitaire dans les zones où les ignélés sont passés?
La situation humanitaire n'est pas brillante. Avec l'insécurité dans la forêt et les longs des cours d'eau, la population ne voit que plus comme par le passé à ses occupations quotidiennes. Quand les ignélés envahissent les villages, ils ravissent tous les biens de la population. Certaines familles ont perdu tout ce qu'elles avaient. Parti par là, ce sont des plaintes. Et les humanitaires ne se précipitent pas pour leur apporter assistance. Avec toute la procédure qu'ils doivent suivre, à savoir identifier les sinistrés, évaluer leurs besoins avant d'intervenir. Même ici, à Mbandaka, les déplacés des guerres qui avaient fui les hostilités entre les FARDC et les ignélés à Lobengo n'ont reçu jusqu'à ce jour aucune assistance, ni des autorités, ni des humanitaires. C'est à Dongo et à Dimena où l'assistance commence à s'organiser en faveur des déplacés des guerres.
Merci beaucoup Dominique et bonne soirée à Mbandaka.
Merci beaucoup Alain.
Madame Rebecca Ebalé, vous êtes en ligne? Vous êtes en ligne, madame. On a des petits problèmes avec votre ligne. Vous nous entendez?
Je vous entends très bien, parce que je vous entends avec les journalistes.
Voilà. Nous, ici, nous avons un peu de mal à vous capter. Si c'est possible de changer un peu de position, hein, de bouger un tout petit peu pour que la qualité de la ligne puisse s'améliorer.
Oui, c'est vrai. Je vous reçois.
Voilà, ça s'est nettement amélioré. Madame, vous êtes ministre provinciale chargée de la communication et porte-parole du gouvernement provincial de l'Équateur. Nous l'avons tous suivi. La localité de Matanza a été reprise hier par les FARDC. Mais à ce jour, quelle est la situation sécuritaire dans cette localité et ses environs?
Le territoire de Matanza, vous venez de le dire, messieurs les journalistes, est sous contrôle des FARDC. Maintenant, ces affirmations, conformément aux éléments. Franchement, nous recevons minute par minute une origine à ces éléments-là, de nous parler de tout.
Madame la ministre. Allô, madame la ministre, excusez-nous, on a encore des petits problèmes avec votre ligne. La réalisation va tenter de vous relancer pour essayer d'améliorer la qualité de votre ligne. Honorable José Ngwanda, vous êtes en ligne?
Affirmatif.
Voilà, honorable, vous êtes député national de l'opposition et président du regroupement des parlementaires de l'Équateur. D'après vous, quelle est la situation sécuritaire à Matanza, parce que vous avez quand même des élus dans cette partie du pays?
Oui, affirmatif, nous avons des élus qui sont sur place, mais comme vous le savez, lorsqu'il y a des affrontements, les élus ne restent pas sur place, ils se cachent. Et aussi, vous êtes sans ignorer qu'il y a un problème de communication dans cette partie du territoire où les sociétés de communication ne sont pas installées partout. Mais ce que nous savons est que, effectivement, en suivant Madame la ministre provinciale, porte-parole du gouvernement provincial de l'Équateur, et aussi d'autres sources, que les troupes gouvernementales ont repris le territoire de Matanza et que les insurgés se sont enfouis, mais avant, lorsqu'ils occupaient cette partie du territoire, ils ont effectivement fait des victimes. Et donc nous pensons que la population est prise en étau et par les insurgés et aussi par le feu de troupes gouvernementales. Donc la situation, je pourrais dire, comme il y a eu ces échanges de tirs ou la récupération du territoire par les troupes gouvernementales, certainement, et qu'aujourd'hui, un certain nombre de gens peuvent revenir sur la cité, mais que les autres certainement serait encore dans leur cachette, en attendant de voir que la paix revienne complètement.
Voilà. Clovis Kada, vous êtes également en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Vous êtes membre de la société civile et coordonnateur principal du groupe d'action pour la démobilisation et la réinsertion des enfants soldats. Vous revenez tout récemment de l'Équateur. Quelle est votre lecture par rapport à la situation, à la reprise de Matanza par les FARDC?
Bon, c'est une bonne chose que le FARDC ait repris la localité de Matanza. Mais la question qu'on peut se poser, comment, au moment où on nous a dit que le Zénier était complètement défait vers Dongo et les environs, qu'est-ce qui s'est passé pour que ces gens-là surgissent encore ou résurgissent à Matanza et se fassent encore parler d'eux? C'est un peu ça la question par rapport à la situation, mais c'est une bonne chose que la localité soit reprise, mais nous ne savons pas, parce qu'il y a des embranchements par rapport aux voies fluviales, qu'est-ce qui va advenir après demain, après Matanza, quelles sont les dispositions qu'on va prendre.
Voilà, vous avez suivi l'honorable Ngwanda qui s'inquiétait du manque insuffisant d'informations autour de cette localité parce qu'il n'y a pas un réseau téléphonique qui la couvre. Mais quelle est la situation sécuritaire d'après vous à ce jour dans cette partie?
La situation sécuritaire est instable. La situation sécuritaire est instable du moment où vous avez suivi votre collègue au début de l'émission. Il a dit que il a paraphrasé les commandants des opérations, je crois, quand il a dit parler des mots. Ils n'ont pas les ennemis, ils n'ont pas une base réelle. Ils font la guérilla. Oui, là, le problème pour la population, guérilla ou base réelle, là n'est pas le problème. Le problème, c'est que qu'on en finisse une fois pour toutes et que la population fasse à ses occupations comme d'habitude. Parce que la situation sécuritaire reste précaire et d'avoir des milliers, des centaines de personnes qui sont qui se réfugient dans la forêt ou qui prennent les voies fluviales pour se déplacer, c'est toujours un problème.
Voilà, la réalisation me signale que Madame la ministre Rebecca Ebalé est de nouveau en ligne. Madame, vous nous captez?
Je vous capte, monsieur le journaliste.
Voilà, je pense que la ligne s'est améliorée. Et j'étais en train de vous demander quelle était la situation sécuritaire à Matanza actuellement, disons au moment où nous parlons, à Matanza et ses environs.
Alors, monsieur le journaliste, nous allons peut-être nous répéter un peu là pour dire que nous, les éléments que nous sommes en train de livrer à l'opinion nationale qui est provinciale ici, chez nous, en Équateur, et nous viennent ces éléments-là d'informations des services qui sont sur place, hein, notamment l'armée, la police et les services étatiques sur place. Donc, ces éléments-là d'informations nous sont parvenus et on dit que le territoire de Matanga est sous contrôle des FRDC, donc c'est l'armée nationale qui contrôle jusqu'au moment où nous vous parlons le territoire de Matanga. Donc, nous nous fions à ces informations et nous croyons que tout s'est bien passé. Vous avez suivi tout au début de cette semaine que nous avions dit, la cité de Matanga était assiégée, bien sûr, était tombée, je veux dire, entre les mains des insurgés ennemis. Et c'était par surprise, hein, il ne faut pas oublier que la cité de Matanga n'a pas une forte présence militaire et policière. Et donc, une vingtaine de polices, des éléments de la police qui assurent la sécurité tant bien que mal dans cette cité-là, avaient quand même ses faces et ces éléments-là ont été secondés par les 900, un troisième bataillon posté à Lobengo, pas très loin des Matanga, qui font aller prêter main forte pour que la cité redevienne calme, et puis que ces éléments-là, des insurgés ennemis, soient délogés. Donc, pour le moment, nous pouvons rassurer toute la population, tant nationale que provinciale ici, que ce sont des éléments de forces armées loyalistes, donc les éléments des FRDC qui contrôlent cette cité-là, ce territoire-là de Matanza, ici en province de l'Équateur.
Mais Madame la ministre, tout récemment, et d'ailleurs Clovis Kada l'a répété aussi, hein, on se souvient que le ministre Mende avait annoncé que les Ényélés avaient été terrassés, qu'il ne restait plus que des éléments résiduels. Mais comment vous expliquez cette résurgence?
Justement, vous savez, nous sommes dans un contexte pas vraiment de guerre comme telle, mais des affrontements. Et vous savez que quand on parle des affrontements, il s'agit des combats qui se passent un peu sur plusieurs axes à la fois. Il y a des éléments qui sont chassés, ces éléments-là qui sont rentrés le week-end à Matanga. J'avais dit ça tout au début de la semaine, que c'était le même élément qui sont chassés de Bomongo par l'armée nationale qui a une forte présence là-bas à Bomongo, vous le savez, monsieur les journalistes. Et c'est dans leur fuite en train d'entrer, comme vous le savez, sur plusieurs axes dans les différentes localités voisines de Matanga qui sont arrivées le samedi après-midi vers 14h, selon les informations que nous avions obtenues de l'armée sur place, et qu'ils sont entrés effectivement à Matanza. Mais vous voyez que les choses n'ont pas traîné pour eux. L'armée a eu juste 2 jours, nous parlons de dimanche et de lundi, pour que toutes les stratégies, les bonnes stratégies, je veux dire, n'est-ce pas, soient mises en place pour que ces éléments-là soient délogés. Et nous sommes donc hier déjà mardi matin, on parlait déjà de la reprise de cette cité-là, de Matanga, par l'armée nationale.
Mais madame, une fois de plus, hein, l'inquiétude, c'est que ces éléments, ces groupes résiduels, hein, puissent réapparaître dans un autre territoire. C'est ça la crainte. Mais qu'est-ce qui peut être fait pour finalement mettre fin à cette situation?
Justement, hein, il s'agit des stratégies militaires. Je ne voudrais pas en dire plus. Représentant le gouvernement provincial ici au niveau de la province de l'Équateur, c'est vrai qu'il y a une bonne coordination entre le gouvernement provincial et l'armée dans la troisième région militaire. Nous prenons toujours main forte ensemble avec nos amis des agences du système des Nations Unies, notamment la MONUC et les autres agences. Nous travaillons toujours en collaboration et en coordination pour assurer, n'est-ce pas, la fin de cette aventure aventure, hein. Moi je l'appelle vraiment une aventure parce que elle n'est pas une guerre qui est structurée, qui n'est pas stable. Elle se fait deux jours après, elle est coupée et puis elle reprend. Donc les moyens et les intelligences sont en train d'être mis ensemble, n'est-ce pas, pour que nous puissions procéder une fois pour toutes avec le soutien, je dis bien, avec le soutien de tous nos amis internationaux comme l'armée et la police. Nous croyons que dans les jours qui arrivent, là, on ne parlera plus des insurgés ni des chiens en France et l'Équateur.
Honorable José Nguanda, je reprends presque la même question. Hein. La crainte de voir encore ressurgir ce mouvement dans un autre territoire, qu'est-ce que vous, député de l'Équateur, faites dans ce sens pour trouver une solution, une autre approche, disons?
Disons, moi je crois que la responsabilité est comme au gouvernement par l'entremise de l'armée de prendre toutes les dispositions pour sécuriser la population. Il est un fait que les territoires où se passent les conflits est un territoire marécagé et donc aujourd'hui les insurgés utilisent pratiquement la guérilla pour s'attaquer aux troupes gouvernementales, ce qui a une difficulté pour les maîtriser parce qu'ils utilisent les pirogues, les hors-bord pour se déplacer. Mais je crois que notre armée a toute la capacité de contenir ces insurgés et ramener la paix. J'ai suivi votre collègue qui, je ne sais pas si il paraphrasait le commandant de la 3e région militaire qui s'inquiétait que ces insurgés puissent se déplacer jusqu'à aller vers Lissala et Bungandanga. Je crois que là, ça sera très inquiétant. Il est important qu'ils prennent toutes les dispositions pour arrêter leur progression. Et s'il faut les poursuivre, même dans leur retranchement, dans des rivières où ils se cachent, je crois qu'ils ont ce devoir, cette obligation-là de le faire. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a une sorte de confusion aussi qui règne parce que certains jeunes gens sont pratiquement confondus aussi aux insurgés et facilement ils sont arrêtés, ils sont aussi parfois la cible même de l'armée. Voilà pourquoi nous voulons que l'armée puisse prendre toutes les dispositions pour éviter effectivement les dérapages et faire un grand nombre de victimes de la part de la population.
Honorable, il y a cette auditrice, hein, Aline Dovira au Sud Kivu, qui dit « Pourquoi le gouvernement congolais a pris l'option de traquer les Ignélés par les armes au lieu de privilégier le dialogue, comme c'est le cas au Nord et au Sud Kivu, afin de s'imprégner aussi de leurs revendications en vue d'une paix durable dans ce coin du pays ? N'est-ce pas là deux poids, deux mesures, c'est-à-dire les carottes au Nord et au Sud Kivu et le bâton à l'Équateur ?»
Disons, là, moi, je lui donne raison parce que, à son temps, nous avons eu à dénoncer cette situation et nous avions imputé cette responsabilité au gouvernement. Au niveau de l'Assemblée nationale, nous avions fait des motions, nous avions interpellé les ministres, nous avions même nous-mêmes rencontré les ministres de l'Intérieur, nous avions écrit à toutes les autorités, et en réservant copie même à la plus haute hiérarchie pour leur demander de s'investir pour régler les problèmes entre les Ignélés et la tribu Munzaya. Malheureusement, les députés que nous sommes n'avions pas été écoutés en son temps. Aujourd'hui, nous sommes en train de, donc notre pays est en train de dépenser beaucoup d'argent pour ramener la paix à cette partie du territoire. Et pourtant, s'ils avaient écouté les SOS de députés nationaux, je crois qu'on n'arrivera pas à la situation actuelle. Donc nous avons, au niveau du regroupement des parlementaires de l'Équateur, pensé que le gouvernement avait commis
une imprudence à ne pas agir au moment opportun parce qu'on allait éviter les pertes en vie humaine, on allait éviter les dépenses que nous sommes en train d'engager aujourd'hui.
Clovis Kaba, qui nous a rejoint dans ce studio, hein, il y a Blanchard de Mbandaka à l'Équateur qui dit « J'ai l'impression que l'État congolais oublie que cette insurrection provoque inutilement plusieurs cas de mort que nous sommes en train de déplorer avec beaucoup d'amertume. »
Tout à fait, je pense qu'il a raison. Parce que la question que nous pouvons nous poser, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est réellement, parce que ces questions, nous devons avoir le sens de l'histoire et de la lecture de l'histoire. Si nous voyons ce qui s'était passé en Ituri à l'époque, on a parlé de guerre ou conflit épique, et puis finalement, aujourd'hui on comprend que avec le recul de temps, on comprend que c'est plus un problème de pétrole ou autre chose pour, autour desquels les gens tournent. Aujourd'hui, à l'Équateur, il se pose, au départ, c'était un problème des temps. On a parlé des Zénielé et des Mazaya. Et aujourd'hui, ce n'est plus les étangs, ce n'est plus les ethnies. Ce sont des insurgés qui commencent à avoir plus de l'espace au niveau de la province. Donc, c'est question de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que vous avez posé la question de la solution. Moi, je pense que, même comme l'honorable l'a dit tout à l'heure, il n'est pas encore tard pour essayer de dialoguer et de trouver une solution. Pour qu'on arrête. L'auditeur a raison de dire que ce sont des morts inutiles. Ce sont des morts inutiles, on n'en a pas besoin pour l'instant. Si on peut s'asseoir et trouver une solution, écouter ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent, on ne va pas se mettre à genoux devant eux, mais qu'ils disent qu'est-ce qu'ils veulent, et on trouve une solution pour qu'on mette fin à cette histoire.
Madame la ministre Rebecca Ebale, à ce niveau, le dialogue est-il encore possible avec ces insurgés?
Je pourrais répondre en rebondissant pour donner d'abord un point de vue par rapport à l'intervention de la première auditrice qui a dit que pourquoi il s'agit de la politique des deux poids, des mesures, justement pour vous répondre, monsieur le journaliste. À mon avis, je dirais qu'il ne faut pas confondre et comparer les deux choses, hein, parce que bon, le tout dépend aussi des origines des conflits. Dans l'Est, peut-être on a parlé des conflits ethnicaux, tribaux, tout cela, mais ici chez nous, tout a commencé par un conflit des étangs, tout cela, et puis jusque là où nous en sommes aujourd'hui. Et donc, moi je pense que les voies du dialogue aujourd'hui, il sera toujours privilégié par notre gouvernement et même par le gouvernement national qui, n'est-ce pas, on ne doit pas livrer toutes les stratégies qui sont en train d'être prises, mais nous voulons seulement rassurer toute l'opinion nationale, internationale même, que les stratégies pour arriver à dialoguer afin de mettre fin à arriver en fait à terminer cette histoire sont en train d'être étudiées et je pense que dans les jours qui viennent, le tout dépend, c'est pourquoi j'ai dit, de la manière dont cette histoire sera négociée. Parce que à la fois, monsieur le journaliste, on ne doit pas oublier que la République démocratique du Congo sort d'une forte guerre, vous le savez comme moi, et je pense que suivant les programmes quinquennales même du gouvernement central du président de la République et même les programmes que nous a présenté l'autorité provinciale ici, son excellence Jean-Claude Bayindé, tous ces deux programmes-là, quand moi je les compare, à mon avis, je trouve qu'ils sont plutôt axés sur la voie de développement. Donc nous avons plus besoin des partenaires pour le développement, que ce soit des partenaires internationaux, nous ne pouvons pas refuser. À combien plus forte raison, s'il y a des fils, il y a des filles de cette province qui se sentent, je ne sais pas moi, gênées par la gestion de la chose publique, ils n'ont qu'à négocier, ils n'ont qu'à demander les dialogues, parce que les dialogues se demandent. Vous avez dit que, est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir, oui, c'est l'une des stratégies, mais regardez, on ne doit pas accorder cela comme si, même si ça n'a pas été demandé, on ne doit pas non plus comparer les choses, je suis en train d'insister pour répondre à l'autre auditrice, c'est que nous sommes en train justement d'étudier comment on peut arriver à dialoguer. Mais le tout dépend, je veux dire, comme que les choses n'ont pas été négociées de la même manière pour l'Est qu'ici chez nous. Donc, moi, je ne voudrais pas, pendant que les gens sont en train comme ça,
de tenir tête et à l'armée nationale. Les gens sont en train de fouler au pied comme ça tous les efforts que et le gouvernement national et le gouvernement provincial ici au niveau de la province de l'Équateur sont en train de mettre ensemble tant bien que mal pour améliorer les conditions de vie de nos populations, que nous puissions déjà commencer à parler négociations. Ça ne se passe, je ne sais pas, même dans les états de vieille démocratie au monde, moi je pense que ça ne se passe pas comme ça.
Merci,
justement,
madame.
Nous sommes en train d'étudier comment y arriver, mais bon, moi je pense quand même que chacun de son côté devrait d'abord penser déjà à ça, et peut-être dans les jours qui arrivent, nous pourrions en arriver.
Merci. Honorable José Ngbanda, il y a Robert de Bukavu au sud qui vous demande, quelle lecture peut-on faire de la résurgence de la rébellion inhalée à l'Équateur? Est-ce un défi lancé au gouvernement par cette rébellion?
Non, je ne crois pas, parce que dès le début, nous avions toujours considéré que c'était effectivement une aventure, parce que lorsqu'on suit les origines de cette insurrection, on peut considérer que ceux qui l'ont commencé n'avaient pas l'intention ou n'avaient pas les moyens de faire cette insurrection, mais c'est parce que on avait dépêché, selon les informations à notre possession, une équipe de policiers et qui n'a pas su se défendre face à ces groupes d'insurgés. Et bon, après avoir récupéré les armes entre les mains de ces policiers, ils se sont lassés dans cette aventure. Parce que, à ma connaissance, jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore suivi de déclaration d'un tel ou tel autre leader. Et donc, en sens, je ne crois même pas à une rébellion. Donc, il fallait effectivement décourager ou arrêter cette aventure qui fait malheureusement des victimes et qu'on pourra peut-être les dénombrer si la paix revenait dans cette partie du territoire, et donc des victimes pour rien.
Clovis Kada, il y a Augustin de Kindo Maniema qui dit, je crois qu'à une année de la fin du mandat, le gouvernement congolais ne doit plus nous faire assister au scénario de reprise ou perte de localité des mains de rebelles, car c'est la preuve d'une autre des failles du système en place.
Tout à fait, parce que je crois que le président de la République avait inscrit la sécurité sur l'ensemble du territoire dans cela, dans son plan d'action lorsqu'on faisait la campagne et le programme pour l'élection. Je crois que pour le peu de temps, les très peu de temps qui nous reste, le peuple congolais a les yeux rivés ailleurs sur les sociales, sur comment préparer les prochaines échéances électorales plutôt que d'avoir encore des insurgés ou des gens qui mettent mal à l'aise non seulement la population et même le pouvoir en place. C'est une bonne chose.
Il y a Emina de Mbandaka, l'Équateur, qui dit « Le gouvernement central et provincial doivent motiver nos militaires et policiers pour faire face à ces insurgés inhalés qui veulent s'aimer la peur et la désolation au sein de la population. »
Tout à fait. On l'a toujours dit. Et des fois, ça donne l'impression qu'on est en train de monter le militaire, de monter les policiers, non. On l'a toujours dit, ce sont nos frères, ils vivent avec nous. On a toujours dit, de la même façon qu'on demande l'amélioration des conditions de vie sociale pour les fonctionnaires et agents de l'État, il serait souhaitable aussi qu'on mette les policiers, qu'on mette les militaires dans de bonnes conditions sociales qui puissent lui permettre de bien faire son travail.
Quelle est la situation humanitaire dans la localité de Makanza et les territoires environnants au lendemain de la reprise de cette localité par les FRDC des mains des insurgés inhalés? La situation humanitaire demeure encore inconnue dans cette localité et ses environs. Selon Séraphin Kazadi, chargé des affaires humanitaires adjoint au bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies à Guinéna, une mission se prépare à descendre sur place dans cette zone pour évaluer la situation. On écoute Séraphin Kazadi au téléphone de Samuel Kachak.
Pour le moment, la situation humanitaire dans le territoire de Matanza est encore inconnue parce que c'était une ligne de front, c'était la zone de combat. Donc les humanitaires ne pouvaient pas s'y rendre. Comme la zone est un peu libérée, donc Imesse, Bougourou et Niélé sont déjà récupérés par le FARDC. Les humanitaires au niveau de l'intercluster à Guémena sont en train de se préparer pour faire une descente dans la zone et évaluer la situation humanitaire.
Et quelles sont les zones les plus affectées après la reprise de cette localité?
Avant même la reprise de la localité, les populations les plus affectées sont les populations d'abord de la cité de Dongo, où toute la population avait fui. Une très grande partie des maisons étaient incendiées, brûlées. Il y a la localité de Bokonzi qui est aussi affectée. En tant que zone d'accueil, il y a accueilli au moins plus de 30 000 déplacés dans cette zone-là. Il y a Makengo aussi qui a été affectée. Pour le moment, ce sont, je pense, les zones les plus touchées par cette crise de Dongo.
Madame la ministre Rebecca Ebalé, je rappelle que vous êtes ministre provinciale chargée de la communication et porte-parole du gouvernement provincial de l'Équateur. Vous venez de suivre Séraphin Kazadi de Ocha Guémena qui dit que la situation humanitaire est inconnue jusqu'à ce moment. Qu'est-ce que vous en dites?
Dire que la situation reste inconnue, nous ne pouvons pas affirmer des choses comme ça, monsieur le journaliste, d'autant plus que, comme j'avais souligné, nous sommes en train de travailler en coordination, en collaboration avec toutes les agences du système des Nations Unies en place, et notamment avec l'armée et la police également, aussi avec les services étatiques postés à Bo et à Matanza, un peu plus partout, même à Bomongo. Donc, dire que la situation reste noire ou bien inconnue, moi je n'appuie pas parce que, bon, regardez, prenons seulement les cas de Makanza. Comment vous allez dire que la situation reste inconnue, d'autant plus que ces bataillons-là, c'est les bataillons qui a quitté Lobengo pour aller secourir la petite police postée à Makanza pour déloger les éléments, les insurgés ennemis hier matin, sont arrivés là-bas parce qu'il y avait quand même la population qui a aidé ces bataillons-là. Il s'agit du bataillon qui a été dépêché justement pour déloger ces éléments-là. Donc, moi, je dirais que la population et la situation, elle est connue, d'autant plus que nous avons des preuves qu'il s'agit de c'est la population, en fait, qui a aidé ces bataillons-là qui étaient en route et qui a facilité même à dénicher les états-majors, les petits états-majors créés de fortune pour, n'est-ce pas, déranger la quiétude des citoyens de Makanza. C'est la population qui a aidé les bataillons qui étaient en route pour connaître où se cachent les ennemis. Et vous avez les
résultats. Madame la ministre,
je dirais également.
Madame la ministre, juste une question de précision. Si vous dites que la situation est connue et que c'est la population qui a aidé les FARDC à découvrir les cachettes des Ennélé, donc vous voulez nous dire que la situation humanitaire n'est pas aussi mauvaise qu'on la présente?
La situation humanitaire, nous ne pouvons pas également dire qu'elle est bonne ou elle est mauvaise, d'autant plus que nous sommes, comme j'ai dit, en collaboration avec les agences du système des Nations Unies qui, par exemple, nous ont fait part, ces agences-là, d'une inquiétude qui dérange au retour des populations des Dongo, prenons seulement les populations des Dongo. Il y a une bonne partie, vous avez d'ailleurs repris ça dans les éditions des journaux ce soir sur Radio Capi, qu'une bonne partie de ces populations-là sont à Ifondo et puis ils sont aidés là-bas par l'UNICEF et les HCR, ils ont même ouvert des écoles là-bas pour les élèves. Alors, au niveau des Dongo, il y a eu beaucoup de cases, beaucoup d'habitations, des villageois, comme vous le savez, qui ont été brûlés, qui ont été saccagés pendant les affrontements. Donc, il s'agit peut-être, on parlerait peut-être d'une situation d'hésitation de la part des populations qui hésitent encore, qui regardent encore les choses de loin, qui veulent bien rentrer, mais qui veulent avoir de la part des autorités, notamment les gouvernements nationaux, les provinciales et puis les agences qui nous aident toujours, notamment la Monique aussi et puis d'autres agences, pour qu'ils puissent rentrer. Donc, dire que tout est dans les noirs, moi je n'affirme pas des choses comme ça, parce que quand ces agences-là du système des Nations Unies arrivent sur place, ils arrivent quand même à parler avec les gens, ils arrivent quand même à rencontrer les autorités et qui sont là. Il y a un commissaire des districts qui est là sur place, il y a bien le commandant de la force navale qui est là sur place, qui ont pu aider pour donner des éléments justement à ces envoyés-là des agences.
Merci, madame.
Pour cela dire que la situation est tellement noire, on croirait que nous avons affaire à des cités fantômes.
Merci, madame la ministre. Merci, Madame la Ministre. On vous l'a compris. Honorable José Ngbanda, un mot sur la situation humanitaire à Matenga.
Non, moi je crois que Madame la Ministre ne doit pas chercher à se défendre. Je sais qu'ils font leur travail, mais la situation humanitaire, il faut le dire, elle est déplorable. Et nous avons eu à effectuer le déplacement dans le cadre du groupement des parlementaires de l'Équateur à deux reprises à Brazzaville, où nous avons rencontré des organismes humanitaires, et même ici sur place à Kinshasa, nous avions été en concertation avec OCHA, et même avec le gouvernement, parce que pas plus tard qu'il y a 48 heures, nous avons rencontré le ministre de l'Intérieur. Il s'est préparé même une commission pour effectuer effectivement une descente pour un état des lieux. À Makanza, effectivement, nous avons reçu, je crois que l'administrateur du territoire ou le chef de cité de Makanza serait même en Bandaka aujourd'hui. Il a appelé, même avant la récupération par nos troupes, il y avait déjà un cri d'alarme parce que le territoire de Makanza avait accueilli un nombre de déplacés internes qui venaient de Lubengo et d'ailleurs. Et il sollicitait que nous puissions plaider auprès du ministre des Affaires humanitaires pour qu'une assistance urgente soit envoyée à Makanza et même à Bomongo. Et non seulement dans ces deux territoires, mais aussi à Guémena, à Libengue, à Boudjala, parce que ceux qui ont fui Dongo, ils ont trouvé refuge à Guémena, à Libengue, à Boudjala et ailleurs. Et donc leur situation n'est pas bonne. Là où ils sont, ils n'ont ni chat, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de moyens de subsistance. Et donc je crois que Madame la Ministre ferait plutôt mieux de demander à ce que le gouvernement, si le gouvernement provincial n'a pas suffisamment de moyens, que le gouvernement national puisse intervenir, et même les organismes, parce que dire que bon, tout, ce n'est pas bon, ce n'est pas mauvais, et donc on dirait qu'il faut les laisser comme ils sont maintenant. Non, la situation est déplorable, et nous devons aussi concourir à ce que, une fois la paix revenue, comme on a récupéré, comme nos troupes ont récupéré Makanza, nous devons faire en sorte que la population qui s'est déplacée puisse revenir. Il en est de même pour ceux qui ont quitté Dongo pour aller à Brazzaville, au Congo-Brazzaville. Nous devons concourir à ce qu'ils reviennent. J'ai appris ce matin qu'à Enyele, les enfants ont repris les cours, mais sans le matériel didactique, nous avons besoin que les organismes et le gouvernement national puissent intervenir. Donc la situation est déplorable. Le gouvernement national doit intervenir pour assister toutes ces personnes. Il y a même ceux qui sont hospitalisés. Nous avons besoin de médicaments pour soigner toutes ces personnes.
Merci, honorable Clovis Kada. Vous avez suivi, Madame la Ministre Rebecca, pour qui on ne devrait pas tout prendre en noir, mais l'honorable José Ngbanda affirme que la situation humanitaire à Matanga est déplorable. Quel est votre point de vue?
Je crois que le ministre qui a parlé des situations humanitaires inconnues, il a placé le mot à leur place. Et Madame la Ministre doit comprendre qu'il s'agit des êtres humains. Et on ne doit pas spéculer autour de ce que vivent les femmes, les enfants, les hommes qui sont à Matanga. Avant l'émission, j'ai appelé la plupart des collègues qui sont là-bas dans le milieu humanitaire. Personne n'a pu donner quelque chose sur la situation humanitaire à Matanga, ce qui se passe à Matanga. Quand on dit inconnu, c'est ça. Pour Madame la Ministre, ce n'est pas noir parce que les enfants ne vont pas à l'école, donc c'est pas noir. Les enfants, les femmes ne vont plus au champ, ou les gens ne vont plus travailler pour la survie de chaque jour. Ça, ce n'est pas noir. Non, je crois qu'il s'agit des êtres humains. Le 8 mars, les femmes vont fêter la journée de la femme. Je ne pense pas que la femme de Matanga sera concernée par la journée de la femme. Donc, un minimum de considération lorsqu'on parle des gens qui sont en train de souffrir, et comme l'honorable Ngbanda l'a dit, pour lesquels nous devons plutôt chercher des solutions, plutôt que de dire que tout n'est pas noir, tout ça. Qu'est-ce que cela signifie?
Peut-être, Madame la ministre a fait allusion aux déplacés de Dongo qui sont à Ifondo, au Congo-Brazzaville. On apprend qu'ils sont réticents toujours pour de rentrer ici en RDC, tout simplement parce qu'on a accordé la gratuité de l'enseignement à leurs enfants de l'autre côté, et puis ils sont pris en charge par le HCR, alors que le gouvernement se tue ici à les appeler au retour.
Monsieur le journaliste, et cela ne fait, ce qui s'est passé à Matanga ne fait que renforcer leur position. Quand les autorités ont appelé les frères, les compatriotes qui sont de l'autre côté au Congo-Brazzaville de rentrer et que tout allait, tout baignait dans l'huile, ils ont hésité. Mais avec ce qui s'est passé à Matanga, on a compris que tout ne baigne pas dans l'huile et qu'il y a encore des poches de résistance et que tout peut subvenir encore demain. Donc, nous sommes tout à fait d'accord que nos frères et sœurs rentrent au pays. Mais du moment où la Constitution de la République, et à cela s'ajoute la loi portant protection de l'enfant, consacre la gratuité de l'enseignement primaire, et jusqu'aujourd'hui rien n'a été fait, et si de l'autre côté ils trouvent que l'enseignement primaire est gratuit obligatoire, vous voyez, c'est facile de dégager une différence.
Alors, Clovis Kada, que faut-il pratiquement pour que le gouvernement puisse rassurer et la population de Matanga et des environs à revenir, à travailler pour le développement de la province, d'après vous?
Moi, je pense qu'il faut éviter des actions d'éclat, des actions de charme. Il faut travailler sérieusement pour une solution durable. Et que la solution durable passe entre autres, je reviens sur ce que nous avons dit bien avant, sur la façon de négocier. Pour mettre un terme à ce qui se passe avec les Agnélés, les insurgés Agnélés, mettre un terme à ça et penser à la reconstruction, au développement du pays. Nous parlons des cinq chantiers, je crois que les cinq chantiers concernent toutes les provinces, y compris les partis qui sont maintenant menacés par les Agnélés.
Une réaction à Clovis Kada de Didier de Bénionor Kivu, qui dit parce que l'autorité de l'État n'a pas encore été établie sur toute l'étendue de la RDC, il est toujours possible que ceux qui veulent se faire considérer prennent les armes pour trouver une considération dans la classe politique et ne changent pas de visage. Je pense que l'État doit s'imposer pour le retour de la paix sur toute l'étendue du pays.
Tout à fait, mais nous devons aussi éviter de prêter les flancs à ceux qui veulent se lancer dans de telles aventures. C'est-à-dire qu'il ne faut pas leur donner la possibilité ou leur donner les prétextes de justifier leur mauvais comportement. Personne ne peut soutenir une action de rébellion ou comment. Mais quelque part, si, dès le début, je crois que l'honorable Mbanda l'a dit au début, il y a eu des propositions pour qu'on essaie un peu de s'asseoir autour de la table et qu'on règle ce problème. Bon, les gens ont traîné le pas et puis finalement, ça a pris de l'ampleur et puis maintenant, on réagit.
Alors, Madame la Ministre, nous attaquons pratiquement la dernière partie de cette émission. Nous faudra conclure maintenant. Alors, il y a toutes ces personnes qui vous suivent et qui voudraient vraiment se rassurer qu'on ne reparle plus de ces insurgés ignélés qui sèment la désolation. Madame, qu'est-ce que vous avez à dire à toutes ces personnes qui vous entendent?
À toutes ces personnes-là, moi je voudrais seulement rassurer pour dire que nous ne voulons pas qu'on puisse nous éloigner, nous, le gouvernement provincial ici au niveau de l'Équateur, de toutes ces populations-là qui vivent toutes ces souffrances-là. Surtout nous en tant que femmes. Je voudrais également répondre à Clovis qui a dit que Mme Ebali ne doit pas négliger, ne doit pas prendre à la légère les souffrances que vivent les autres femmes et puis les enfants. Je suis moi-même chargée du genre ici au niveau de l'Équateur et je rassure et puis je signale également que le 8 mars, justement, je serai à Matanga pour fêter avec les femmes qui sont en train de vivre cette situation-là un peu difficile, pas un peu difficile, mais difficile à notre avis. Mais également, peut-être donner aussi un mot à l'honorable Mbanda pour dire qu'il est fils de l'Équateur. Les conflits sont là, l'affaire est là sur table. Nous devons plutôt nous mettre ensemble, réunir toutes les intelligences, les énergies et tous les moyens que nous pouvons avoir pour ne pas parler un même langage. Je voudrais seulement rappeler également qu'il y a un groupe de députés de la province de l'Équateur, les députés nationaux qui lui coordonnent les actions, qui ont été voir le ministre de l'Intérieur, qui, j'apprends par lui, est en train de préparer un voyage ici chez nous à la province de l'Équateur, c'est bien. Mais ces députés-là sont allés voir le ministre. Ils sont en train d'accuser l'armée qui est en place de violer les femmes, l'armée qui est en place de tuer les hommes. Mais il s'agit de quels hommes qui sont tués,
femmes
qui sont tuées, parce que toutes ces personnes-là ont fui.
Merci, madame.
Il y a une bonne partie, nous avions dit, qui ne sont pas à Dongo, ils ont fui, ils sont du côté de Ifondo là-bas.
Merci, madame la ministre, on vous a compris. Honorable Ngbanda, un mot en guise de conclusion.
Non, je crois que peut-être madame la ministre n'a pas compris notre message lorsque nous avons rencontré le ministre de l'Intérieur. Nous sommes en train de saluer l'action de notre armée, mais nous disons aux responsables militaires de veiller à ce qu'il n'y ait pas de la page.
Merci,
de fournir des efforts pour que la paix revienne complètement dans la province de l'Équateur. C'est le devoir de l'État.
Merci. À la fin de cette émission, la réalisation était de Guy Maté, la préparation de Samuel Kachak et la coordination rédactionnelle de Martin Sebujangwe, la mise en onde Alain Goy, sous la supervision technique de Patrick Yassoungwa, devant ce micro Alain Irung. Restez branchés sur Radio 7.